Les marchandes de sable, cap sur l'Atlantide, conte des mers et des océans, de Roland de Causse, Nan et Jean-Luc Vézinet, illustration de NSLD. Urashima et la tortue rouge. Dans un petit village, en bord de mer, vivait autrefois un couple de braves gens. Ils avaient un seul fils, appelé Urashima. C'était un pêcheur intrépide qui chaque jour partait en mer dès le lever du jour pour ne rentrer qu'à la nuit tombée. Il ne craignait ni vent ni tempête, aimait s'aventurer au large, là où personne n'osait naviguer par mauvais temps. « Méfie-toi de ton audace !» lui disaient ses voisins. Un jour, les hautes vagues t'emporteront et tu ne reviendras pas. Mais Urashima n'écoutait que son plaisir. Il voguait toujours plus loin, ravi de rapporter à ses parents son abondante pêche. Un jour, il remonta dans ses fils et une minuscule tortue rouge, qui à sa grande surprise, se mit à lui parler. « Pitié, jeune homme, vois comme je suis petite. Laisse-moi regagner les flots, tu ne le regretteras pas. » Amusé par cette étrange créature, il la rejeta à l'eau et n'y pensa plus. Quelques années plus tard, alors qu'il pêchait non loin de la côte, Urashima dut affronter une violente tempête. Il lutta pendant des heures, essayant en vain de se rapprocher du rivage, mais sa barque, malmenée par les flots déchaînés, finit par se briser comme une coquille de noix. Alors il fut entraîné au large par de puissants courants. Il nagea longtemps dans l'eau glacée, mais malgré son courage, étourdi de fatigue et à bout de force, perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il était couché sur le dos d'une belle tortue rouge qui lui dit « Il y a bien longtemps tu m'as sauvé la vie, et mon tour est venu de te secourir. Si tu restes sur mon dos, je vais te conduire dans le merveilleux domaine du roi de la mer. » Urashima, trop heureux d'échapper à une noyade certaine, se laissa emporter. Pendant 3 jours, les eaux se fendirent pour laisser voguer cet équipage, escorté par une myriade de poissons multicolores, au milieu d'algues émeraudes et de coquillages nacrés. Urashima poussa un cri de stupeur lorsqu'il découvrit dans un halo bleuté le majestueux palais royal, dont les colonnes sarties de pierres précieuses brillaient de 1000 feux. « Je suis la dame de compagnie de la princesse Otohime, » avoua la tortue rouge en reprenant forme humaine. « Ma princesse t'attend aux côtés de son père, le roi de la mer. » Le jeune pêcheur fut conduit dans la salle d'apparat, au mur rehaussé de perles et de coraux, où se trouvaient le roi et sa fille. « Sois le bienvenu dans notre royaume, » dit la princesse aux longs cheveux étincelants. « Si tu acceptes de vivre à mes côtés, tu seras le plus heureux des hommes et jamais tu ne vieilliras. » Ébloui par la grâce de la belle Otohime, Urashima s'inclina devant elle, en déclarant « Je souhaite vivre auprès de toi jusqu'à la fin des temps. » 7 années s'écoulèrent durant lesquelles les deux jeunes gens furent parfaitement heureux. Le pêcheur pensait parfois à ses parents, à son village natal qu'il aurait aimé revoir. Au fil du temps, cette pensée ne le quitta plus. Il en perdit son humeur joyeuse, devint taciturne et silencieux. Otohime, qui le voyait sombrer dans la tristesse, le questionna. Alors il avoua son ardent désir de retrouver les siens là-bas, dans son village. « Si tu t'en vas, nous ne nous reverrons plus, » lui dit la princesse, souvent devenue très pâle. « Je te jure de revenir et de tout faire pour te retrouver, » lui promit Urashima. Otohime lui remit alors le petit coffret de nacre qu'elle dissimulait contre son cœur. « Ainsi tu ne m'oublieras pas, » dit-elle, « et si tu me promets de ne jamais l'ouvrir, tu pourras revenir auprès de moi. » Tous deux s'étreignirent longuement, puis Urashima monta sur le dos de la tortue rouge. Après 3 jours de voyage, elle le déposa sur la plage qui longeait son village. Tout heureux, il courut vers sa maison natale. Mais au fur et à mesure qu'il s'en approchait, une sourde angoisse l'envahissait. Tout lui était étranger. À la place des cabanes de pêcheurs, il y avait maintenant de grandes maisons. Des commerces tapageurs avaient remplacé les modestes boutiques d'artisans. Il ne retrouvait plus les ruelles animées de son enfance, mais cheminait le long d'une allée peuplée d'étrangers qui le regardaient avec méfiance. Il eut peine à reconnaître sa maison. Spacieuse et neuve, elle ne ressemblait en rien à celle qu'il avait quittée quelques années auparavant. Bouleversé, il osa frapper à la porte en tremblant. À l'inconnu qui lui ouvrit, il lui demanda où étaient ses parents. Elle ignorait leur nom, ne l'avait jamais entendu. Alors il alla de maison en maison, répétant sans cesse « Où sont mes parents? Je suis né dans ce village. Je m'appelle Urashima. » Mais partout, on lui fit la même réponse. Ce jeune homme venu de nulle part commençait à inquiéter les habitants. Sur la grande place, on se moqua de lui, on le bouscula. Une femme, cependant, lui conseilla d'aller rencontrer le plus vieux moine du temple. Il détient le grand livre où est consignée l'histoire du village. Il te renseignera peut-être. Urashima dit son nom au moine qui le reçut aimablement. Celui-ci réfléchit longuement et finit par se souvenir. Il y a eu en effet un jeune pêcheur qui autrefois portait ton nom. Il a disparu en mer un jour de grande tempête. Il y a très longtemps de cela, presque 300 ans je crois. Désespéré, Urashima comprit que le temps passé dans le royaume sous-marin n'était pas le même que le temps sur terre. Il se précipita au cimetière. Dans un coin sombre délaissé de tous, dissimulé sous une abondante végétation, il découvrit une tombe sur laquelle il déchiffra péniblement le nom de ses parents, morts depuis 3 siècles. Éperdu de chagrin, Urashima eut dès lors une seule idée en tête, regagner le royaume de la mer afin de retrouver sa bien-aimée. Longtemps sur la plage, il appela la tortue rouge. Ne la voyant pas apparaître, il se saisit du coffret de nacre qu'il portait toujours sur lui. Mais oubliant sa promesse, il l'ouvrit. Une légère vapeur bleutée s'en échappa. Il entendit alors la voix d'Otohime qui lui disait « Mon pauvre Urashima, j'avais enfermé là toutes tes années, tu viens de les laisser s'échapper. » Il n'eut pas le temps de refermer le coffret. En un instant, le beau jeune homme vit sa peau se rider, son corps se recroqueviller pour devenir nuage de poussière que le vent emporta dans les vagues. Histoire du rocher perché. Il y a plusieurs siècles, vivait en Normandie une belle jeune fille du nom de Blanche de Beaumont. Celle-ci se languissait depuis des mois, arpentant tristement le parc du château de son père. Elle attendait en vain le retour de son fiancé, le chevalier Raymond de Nérac, dont elle était follement amoureuse et que le roi avait envoyé au fond de l'océan, au-delà de l'océan, en Nouvelle-France, pour combattre les Iroquois. Ces derniers s'opposaient farouchement au régiment du souverain qui voulait créer une colonie sur leurs terres. 2 années avaient passé et Raymond n'était toujours pas rentré. Un jour, lassée d'attendre, elle décida de le rejoindre. Elle réussit à convaincre son père de la laisser partir grâce à son oncle qui avait accepté de l'accompagner et de prendre soin d'elle durant ce long voyage. Ils s'embarquèrent tous deux sur un galion chargé de marchandises qui devait faire voile de Saint-Malo jusqu'à la ville de Québec, au Canada. La traversée s'effectua dans les meilleures conditions. On approchait des côtes de la Nouvelle-France quand un matin surgit de la brume une frégate battant pavillon noir, des pirates. Sur le bateau français, ce fut aussitôt le branle-bas de combat, mais l'attaque du bateau ennemi avait été si soudaine qu'il tira une bordée de coups de canon avant que le malheureux galion n'ait le temps de réagir. 2 mâts touchés par les boulets s'abattirent sur le pont, rendant le vaisseau ingouvernable et le mettant à la merci des assaillants. Profitant de la confusion, les pirates se lancèrent à l'abordage, s'attendant à une victoire facile, mais ils furent accueillis par un feu nourri. Le combat était acharné et la mêlée confuse dans l'épaisse fumée aux odeurs de poudre. Au milieu des claquements, des pistolets et des cris, Blanche prodiguait des soins aux blessés. Mais la lutte était inégale, les pirates trop nombreux, les marins du galion durent se rendre. Les forbans pillèrent alors le navire, emportant à leur bord tout ce qui avait de la valeur. Puis ils abandonnèrent l'équipage vaincu sur leur galion. Blanche, elle, fut retenue prisonnière. Le capitaine pirate qui l'avait trouvée fort belle avait décidé de la prendre pour femme. Elle avait réagi avec véhémence. « Je suis déjà promise à mon fiancé Raymond de Nérac que je dois rejoindre en Nouvelle-France. Jamais vous m'entendez, jamais je ne vous épouserai. »« En Nouvelle-France, vraiment ?» répondit le forban en ricanant. « Très bien, je vais t'y emmener. En attendant, un séjour à fond de cale te laissera tout le temps de réfléchir. » 2 jours plus tard, les côtes du Canada étaient en vue. Blanche fut alors ramenée sur le pont. « Voilà la Nouvelle-France !» lui dit alors le capitaine pirate. Puis il ajouta en riant « Ainsi tu auras aperçu cette terre où vit ton fiancé avant de devenir ma femme !» La jeune fille poussa un cri de désespoir et se débattit. Elle parvint à s'échapper des mains qui la retenaient prisonnière et, enjambant le bastingage, se jeta dans l'océan. Les vagues l'accueillirent, la dissimulant bientôt aux yeux de ces féroces bandits. À peine avait-elle disparu dans l'écume que le vent faiblit brusquement. Bientôt, plus aucune brise ne fut perceptible. Le navire, dont les voiles devenues inutiles, pendait le long des mâts, s'immobilisa au milieu d'une vaste étendue d'eau grise, lisse comme de l'huile. L'inquiétude gagna l'équipage. Ce calme inhabituel était de mauvais augure. Présageait-il une catastrophe prochaine ? Le soleil couchant, avant de disparaître, éclaira la frégate de ses rayons pourpres, posant sur le visage balafré du cruel capitaine une auréole sanglante. Soudain, un épais brouillard se leva. Il enveloppa la frégate d'un voile cotonneux et poisseux. Puis le bateau frémit, ses membrures craquèrent. Il était désormais emporté dans une direction inconnue par un courant auquel il lui était impossible de se soustraire. Au petit matin, le vent se leva, déchirant la brume. La frégate se retrouva face à un énorme rocher, semblable à un gigantesque navire de pierre ancré près du rivage. L'équipage découvrit avec stupéfaction cet îlot à la masse imposante, aux falaises verticales percées de deux arches monumentales qui se dressaient devant lui. Le capitaine donna l'ordre de manœuvrer pour observer de plus près cet étonnant spectacle. C'est alors qu'apparut, dans la lumière du soleil levant, semblant flotter au-dessus du rocher, un spectre vêtu d'une robe blanche. C'était le fantôme de Blanche de Beaumont. L'équipage poussa un cri de terreur. Épouvanté, le capitaine ordonna fébrilement de reprendre le large en toute hâte pour fuir le malheur qui, devinait-il, allait s'abattre sur eux. Mais il était trop tard. L'apparition tendit les mains vers le navire pirate et aussitôt vaisseau et matelot furent changés en pierre. Durant de longues années, on put voir près du cap des rosiers un étrange récif en forme de frégate. Peu à peu, sous les assauts de l'océan, il a fini par s'effondrer et n'est plus désormais qu'un amas de rochers battus par les vagues. Aujourd'hui encore, on raconte au Québec que, certaines nuits, on peut apercevoir deux silhouettes au sommet du rocher percé, éclairé par la lune, celle de Blanche et de Raymond de Nérac, son amour enfin retrouvé.